19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On est le vendredi 20 décembre. Oui, vous l'aurez reconnu, c'est déjà Yacine. Voilà. On est le 20 décembre et il y a encore la grève. Et une petite pensée à toutes et à tous. Et oui, vivant en Île-de-France, mais pas que, au travers de, aux quatre coins de l'Hexagone, mais aussi, oui Yacine.
Il faut préciser, ouais. Soit à qui?
Oui, eh ben nous pensons à tous les usagers des transports et aussi à toutes les personnes, les automobilistes sur le périphérique.
Et aussi qui font la grève, qui demandent de la,
et aux grévistes, on pense aussi, à tout le monde. Et oui, tout le monde.
Il y a des gens qui ont cotisé pendant 50 ans, ils touchent encore où ils sont, 900 euros de retraite.
Et il y en a qui cotiseront pendant un siècle aussi, il n'y a pas de problème.
Bah oui, les agriculteurs par exemple.
Cotiseront.
S'ils nous écoutent.
Ouais, bon, mais là, on part sur là, on est plutôt dans le sport, là. On va le laisser tranquille, les agriculteurs.
Il y a beaucoup de sportifs qui ont cotisé, qui ne touchent pas une bonne retraite aussi.
Ça aussi. On en parle toujours, Yacine, dans cette émission, de ces sportifs.
Il n'y a pas que 10 millionnaires dans le sport.
C'est le football business, en tout cas. Allez. Durant une heure, dans votre quotidien de sport qui est Tam Sport, on abordera le cas de Léo Jardim en danger avant de retrouver Lille en Ligue 1 Conforama. Nous aurons aussi les Bordelais. Frédéric Languépé lance un nouvel appel au dialogue face aux Ultramarines. Sans oublier l'Olympique Lyonnais qui s'agrandit. Jean-Michel Aulas s'offre le Rennes FC, membre fondateur de la National Women's Soccer League aux États-Unis. Une petite page aussi, sans oublier le football italien, la personne de Mancini. L'Italie n'est plus très loin des meilleures équipes européennes. Mais en tout cas, on l'espère, parce qu'elle avait manqué l'Italie en phase finale de la Coupe du Monde lors du Mondial 2018. N'oubliez pas le 01 53 48 3000, mais aussi la Twittosphère pour réagir avec vos consultantes et consultants dans cette émission. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner, on aura Claude Tollé. Le coach est un petit peu en retard, on ne sait pas où il est. Et aussi en revenant, Brice Tailly. Lui, ça vraiment, ça lui a fait du mal, cette grève. Hein. Comment ça va, Brice?
Ça m'a fait du mal, mais bon, après, c'est la vie, solidarité. Écoute, on essaie de trouver
solidarité, ça fait un moment qu'on t'a plus vu, mais solidarité. Non, ouais, mais moi, l'ai toujours, la solidarité. Non,
alors déjà, attends, il faut le dire, déjà, Bilal, je suis ravi, déjà, de revenir.
Ouais.
Après, effectivement, la grève, voilà, m'a fait du mal parce que les transports, tout ça, moi, je suis pas le seul, je peux me plaindre. Moi, je suis ravi, je suis en vacances bientôt et je suis ravi d'être là.
Et Yacine Bouali, qu'on a pu entendre au début de cette émission. Comment ça va, Yacine?
On est le vendredi 12 décembre.
Ça clash, normal.
On gagne normal. Les jours, quand même.
Abdel Degrette.
Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, Bilal. Je crois qu'il y a des papillons dans le ventre, Bilal.
Ah là là, c'est...
C'est des papillons, c'est Bilal. C'est pas grave.
Ah oui, Bilal, peut-être il est amoureux, c'est ça. Aïe. Alison Nkunku est avec nous. Eh oui,
moi aussi, je suis de retour. La grève m'a aussi fait du mal.
Aïe. Non, mais Alison, tu étais là quand même. Elle était présente.
Je me plains jamais, je suis de retour, je suis très contente d'être de retour parmi vous.
Ouais, on abordera, mais pourquoi pas aussi, le cas sur le club de la Principauté avec Léo Jardim, mais pas que. On verra bien aussi la poursuite de ce club, et avec pourquoi pas un nouvel entraîneur. On verra si Yacine, ou encore Kamel, ou Achille, ou même le coach Tollé, nous donneront quelques informations. Allez, on démarre cette émission.
Time Sport, le ras-le-bol.
Léo Jardim en danger, justement, avant de retrouver les Lillois en Ligue 1 Conforama. Isolé, l'entraîneur portugais de Monaco n'est pas soutenu par ses dirigeants avant la réception cruciale de Lille ce samedi. Après la terrible soirée contre Lille en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, je tiens à le rappeler, mardi soir, 3-0. Les Monégas retrouvent donc le LOSC samedi en Ligue 1. Y a-t-il de quoi trembler? Yacine, on t'écoute.
Trembler, je ne sais pas, l'année passée à cette période, ils n'étaient pas au mieux de leur forme aussi. Hein. Donc une 9e place, ils ont un duo qui fonctionne très bien avec Slimani et Ben Yedder. Donc là, quand on a vu la conférence de presse d'avant-match contre Lille, Demain de Thiago Bakayoko, dans lequel il dit énormément de bien de son coach. Il dit qu'il a fait énormément de bien à cette équipe monégasque, qu'on a oublié très vite, qu'on a la mémoire trop courte. Il m'a dit, il disait clairement que c'était pas de la responsabilité du coach, mais de la responsabilité des joueurs. Pour une fois, un joueur qui prend ses responsabilités, il dit c'est à nous de nous bouger. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est pas lui. Lui, il nous entraîne, il nous donne les instructions, il nous donne la tactique du jeu. Après, c'est à nous d'appliquer ou pas. Pour le moment, donc, je pense que ce groupe monégasque, la mayonnaise n'a pas encore pris au niveau de tous les compartiments. Mais je pense, il y a quelques matchs où ils ont produit quand même du très beau jeu. Mais après, après la saison qu'ils ont vécue, on va dire un peu traumatique. Là, ils sont en train de se reconstruire, laissons-leur le temps. Il y a le mois de décembre qui arrive, peut-être qu'ils vont faire ils vont peut-être ramener un ou deux, voire deux très bons joueurs pour vraiment arriver à jouer au moins une place européenne.
Ouais.
Dans les parages, il y a Tem Ben Arfa qui est libre, s'ils sont intelligents, ils n'ont qu'à aller faire un petit peu de... lui faire un peu les yeux doux. Je pense que Ben Arfa, Slimani, Benider, ça pourrait faire très 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 mal.
Ouais, selon toi. Alisson, c'est monégasque avec leur entraîneur portugais, Jardim.
Leonardo Jardim en danger, on peut dire que c'est du 50-50. Hein. D'un côté, Leonardo Jardim fait cavalier seul. Hein. Il n'est pas soutenu par sa direction, hein, malheureusement. Ils n'ont plus Monaco. C'est pas une équipe très flamboyante, mais en même temps, si on compare à l'année dernière, c'est à peu près du kiff-kiff. Hein. Donc il n'y a pas de quoi.
Il y a un léger mieux cette année.
Il y a un léger mieux, mais il n'y a pas de quoi non plus. Tirer la sonnette d'alarme, hein, pas du tout. Mais de l'autre côté, comme tu l'as dit, Yacine, le coach est énormément soutenu par ses joueurs. Exactement. Mais aussi, pour en revenir à mon premier point, il y a les supporters qui, au dernier match, criaient Jardim.
Ça, je savais pas qu'on a quoi avec des supporters. Ah, ça, je l'apprends.
Mais écoute. Bien. En tout cas, dans les gradins, il s'est crié « Jardim, démission ».
Ouais, ils ont crié. Ouais.
Voilà. Donc,
c'est sûr que c'est des monégasques.
Yacine. Ah, quand même, Yacine.
On va dire que c'est des monégasques, hein.
Ah, peut-être.
On va le dire. Là, je peux m'avancer à le dire, en tout cas, que ce sont des monégasques. Donc, c'est du 50-50. Il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Lui, il est confiant. Il prend la responsabilité. Il prend toutes les responsabilités sur lui. Il dit que c'est le coach. Donc, forcément, le premier qui est en porte-à-faux, c'est lui. Mais ses joueurs, comme tu l'as très bien résumé, Yacine, disent que quand ils sont sur le terrain, c'est à eux d'agir. C'est à eux de jouer. C'est pas au coach. Donc, voilà. Là, on va arriver à la trêve hivernale. Il y aura peut-être du changement dans l'effectif monégasque. Donc il y a vraiment pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour le moment.
Même comme ça, ils ont un bon effectif.
Bien sûr qu'ils ont un bon effectif. Après, ce qui leur fait défaut aussi, c'est qu'ils sont pas réguliers. Ils produisent des matchs insipides. Ils arrivent pas à reproduire les performances. C'est deux matchs, on gagne un match, on fait un match nul ou voire on perd. C'est pour l'instant ce qui leur fait défaut à Monaco, malheureusement.
Maurice, Monaco, tant de choses à dire.
Pour répondre à ta question, Bilal, ouais. est-ce que Léo Jardim est en danger? Je pense qu'effectivement, on avait rejoindre, là, je vais rejoindre mes collègues, c'est 50-50, parce qu'effectivement, si tu vires Jardim l'année dernière, à cette époque de l'année, je prends un peu avant, pour finalement le reprendre en cours d'année et que là, tu le vires de nouveau, ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, la vraie question derrière, c'est est-ce que ce club de Monaco, ce qu'il fait depuis un an, est-ce que ça a du sens? Moi, j'ai envie de dire quelle déconfiture, franchement. On a un club qui, il y a encore deux ans, était champion de France en titre. On a un club quand même qui est dimensionné normalement pour
avec
jouer.
Jardim.
Oui, avec Jardim en plus. Jardim. On a un club qui normalement est dimensionné pour jouer les premiers rôles et on a un club qui est tombé dans l'anonymat le plus total. On ne sait même pas quoi dire autour de cette table, franchement. Comme tu disais tout à l'heure, justement, on a un club qui nous fait deux victoires par-ci, une victoire par-là.
C'est ça.
Et puis en fait, tout le monde s'en fiche. C'est ça qui est terrible, c'est que Monaco est tombé dans l'anonymat le plus total et le projet
est
illisible. Illisible, c'est un mix de grognards.
On sait
et de
plus ce qui se passe à Monaco.
Ce qu'ils veulent faire, ça manque d'idées et honnêtement, ils sont dans le ventre mou et ils méritent pas mieux. Leur chance, c'est que dans cette Ligue 1 qui est franchement qui est assez morose, tu gagnes deux matchs, tu peux jouer les premiers rôles.
Tu gagnes un match, tu peux monter sur le podium.
T'es dans le ventre mou et tu joues le maintien.
Ça.
Donc là, apparemment, enfin là, c'est pas apparemment, c'est que mathématiquement, s'ils gagnent, ils sont à 3 points de Lille.
Bah,
et Lille fait plutôt une bonne saison. Voilà. Donc, finalement, dans. Ça se trouve, à l'issue de la journée, tu vas te dire, finalement, Monaco n'est pas si mal.
C'est ça.
C'est pas terrible.
Lille, ils sont sur le podium.
Moi, je trouve que Monaco est à l'image de notre Ligue 1 et quelle déconfiture.
Aïe.
Ça, c'est bien résumé, hein. Ouais. C'est Monaco.
Donc, aujourd'hui, peut-être, il faut remonter un petit peu l'historique de Monaco après avoir été champion. Après, on va dire la vague qu'a connu ce club avec le départ de Vassiliev, tout ce qui s'est entouré, tout ce qui s'est dit autour du club. Parce qu'à un moment donné, ça a failli vraiment basculer parce qu'il y a eu plein de. Je pense qu'ils ont bien étouffé le séisme, il n'a pas explosé. Et avec l'arrivée de Thierry Henry, qu'on a présenté comme le sauveur, et quand même, c'est pas donné à n'importe qui de se payer Thierry Henry, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Deux mois et demi, ils étaient obligés de le virer, donc il fallait lui payer tout le reste de son contrat. Et qu'est-ce qu'ils font ? La seule solution, c'est de rappeler Jardim. Et Jardim, certainement, en revenant, il a bien bétonné son contrat, parce que ça arrive une fois, ça ne va pas lui arriver une deuxième fois. Aujourd'hui même si les résultats étaient catastrophiques, qu'est-ce que ferait le club de Monaco ? Est-ce qu'ils sont capables de virer aujourd'hui Jardim ?
C'est ça la question.
Qui veut y aller à Monaco ?
Tu soulignes un vrai signe. Si Jardim part, qui va venir à Monaco aujourd'hui ?
Peut-être on va avoir la solution.
Il y aurait toujours quelqu'un qui va partir. Ce ne sera plus quelqu'un.
Mais il n'aura pas la même envergure. Jardim, c'est quand même un super coach.
Bien sûr. Peut-être Monaco aura mieux que Jardim.
Malheureusement, il y a eu des erreurs de mercato parce que franchement, encore une fois, c'est illisible. On a oublié quand même que devant, il y a quand même des types Keita Baldé, Augustin, c'est quand même des très bons joueurs.
Très bons joueurs.
En fait, on a l'impression que c'est monté un peu de bric et de broc. Le projet était censé être autour de Ben Yedder.
Ouais.
De toute façon, ça marche plutôt bien avec Slimani. Mais je crois qu'ils ont oublié que derrière, il y avait un Glick qui avance à deux à l'heure. Quoi.
Alors, ok.
Exactement.
C'est problématique. Selon derrière, ça prend l'eau.
Ouais.
Bakayoko,
qui prend
son niveau d'il y a 3 ans.
Qui prendra Monaco après Jardim, le Portugais ? Qui pourra prendre Monaco, tu as dit, Yacine ?
Ou plutôt qui voudra aller à Monaco,
peut-être ?
Une seule personne qui s'arrangerait d'y aller à Monaco.
Qui ? Djamel Belmadi ?
Pas du tout, c'est Roland Courbis.
Roland Courbis, selon Yacine. On va voir peut-être le 0153-48-3000. Pourquoi pas Unai Emery ? Mais le calibre tel que Unai Emery, du même calibre. Peut-être. Justement, on va pas trop en rigoler, je crois, ce soir. Parce qu'on a. On a un consultant de Tam Sport qui nous appelle parce que lui, je crois qu'il a quelques infos aussi à nous donner, mais qui est plutôt, lui dans l'optimisme, si je peux me permettre. Achille, bonsoir. Il a composé le 01-53-48-3000. On t'écoute, Achille.
Bonsoir à tous. Salut Yannis. Salut Achille. Tout le monde. J'espère que vous allez bien.
On va très bien, Achille. Justement, on dit que qui pourra prendre Monaco ? Peut-être personne à la suite de Jardim, mais selon toi ?
On en discutait hier avec Yacine.
Ouais.
Il se pourrait que Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Vous rigolez ou quoi ?
Laurent Blanc ait déjà peut-être un accord de principe avec le club.
Aïe, aïe, aïe.
Eh oui. Et en cas de défaite, effectivement, de Leonardo Jardim, donc de Monaco, à domicile face à Lille, il se pourrait qu'il soit débarqué. À savoir qu'il ne fait pas l'unanimité au sein du club et que le conseil de direction n'est pas emballé par n'est plus emballé par Leonardo Jardim.
Ouais. Alors justement, Achille Bariste avec nous. Là, je viens de perdre Brice et Alisson. Justement, Laurent Blanc, Alisson. Ouais.
Ah, moi, je reste. Ouais. Je reste.
Bouche bée.
Bouche bée, perplexe. Ouais. Tu viens de m'emboucher un coin, Achille. Laurent Blanc. En plus, apparemment, selon tes informations, ça serait quasiment fait, c'est ça? C'est dans les petits papiers.
Après, on sait ce que ça vaut dans le monde du football. Hein.
Laurent Blanc est annoncé à l'OL il n'y a pas si longtemps que ça.
Ça va très vite quand même.
Son oral.
Voilà. Donc.
Mais non, là c'est un accord de principe et c'est le numéro 1 qu'on fait.
Alors, Brice, justement, en réaction.
Alors, moi, effectivement, comme Alisson, je retombe de ma chaise. Maintenant, très franchement, ça fait de la peine pour Laurent Blanc presque. Laurent Blanc, attends, ça fait quand même 3 ans qu'il a quitté le PSG. Laurent Blanc, on parlait de lui quand même pour les clubs les plus prestigieux. On parlait de lui un moment à l'Inter, on parlait de lui en Angleterre. Il est parti faire un oral qu'il a complètement raté apparemment à Lyon, devancé par Rudy Garcia. Si quelqu'un autour de la table me dit que Rudy Garcia est un meilleur technicien que Laurent Blanc, honnêtement, mort de rire.
Ça c'est pour toi.
Non, franchement.
Le réalisateur, il en fait un peu trop lui aussi.
Ouais. Et là, t'as Laurent Blanc, dont on parlait pour les plus grands clubs, qui va à Monaco, qui est un club en pleine déconfiture.
Ouais.
Pour jouer quoi, en fait? Alors, le ventre mou, le maintien, c'est
alors, réaction avec Achille, on l'écoute, Achille.
Bien au contraire, c'est un choix extrêmement intelligent, parce que Monaco, par rapport à ce que j'entends, ça reste un très grand club européen, faut le dire, c'est tel quel.
Mais non.
Finaliste de la Ligue des Champions.
C'est un quoi, club un choix avec d'avenir?
De très bonnes infrastructures. C'est le dernier champion de France après le PSG. Il y a un effectif de qualité. Donc pourquoi Laurent Blanc ne pourrait pas s'asseoir à la table de Monaco?
Parce que c'est très simple. Parce que Laurent Blanc nous a vendu, après son départ du PSG, enfin il a vendu, il n'est pas allé dans tous les médias, mais il disait qu'il voulait un club top niveau.
De prestige, non, mais top
niveau. Que Monaco ait un palmarès. Pardon ?
Il s'est passé, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Il s'est passé plus
ans. C'est sûr que la vérité de 2016, voilà. Il s'est passé 3 ans. Mais ça ferait de la peine, enfin je veux dire. Si t'attends 3 ans, tu joues au golf pendant ce temps-là pour revenir à Monaco, qui est pour l'instant dans le ventre mou de la Farmer League, c'est quand même terrible.
C'est un Monaco dans cet état. En fait.
Oui, dans cet état, effectivement. Il n'y a pas de projet. C'est le Monaco de 2014, pourquoi pas.
C'est très pour s'inscrire dans un projet, et dans un vrai projet, et je pense que c'est peut-être le coach qu'il faut, qui risque de faire l'unanimité au sein du club, et joueur de tirer, et je pense que ça peut être un sérieux atout, et c'est bien pour la Ligue 1.
Bah pour Monaco, c'est super. Pour la Ligue 1, c'est super. Moi, je dis, c'est pour Laurent Blanc, ça me fait de la peine. Pour un mec qui visait quand même des top projets. Bon,
après,
voilà.
on peut quand même nuancer le propos. Comme Achille dit, si Laurent Blanc est là pour s'inscrire dans un projet, il signe pour 2-3 ans et il veut remettre Monaco au top, avec l'effectif qu'il a. On l'a dit tout à l'heure, à Monaco, quand même, c'est une équipe qui dispose de très bons joueurs. Donc, s'inscrire dans un projet avec Monaco, pour Laurent Blanc, ça peut se faire, ça peut s'entendre et ça peut s'écouter aussi. Hein.
Alors, on peut parler. Yacine, avant la pause.
On peut parler, on peut lancer des noms et tout ça. Après, il y a la réalité dans le football, c'est la réalité de l'argent. Aujourd'hui, c'est Monaco devrait limoger ou licencier Lionel Desjardins, mais il faut qu'il lui paye tout ce qu'il lui reste comme contrat. Savoir que Lionel Desjardins, c'est un entraîneur qui est aux alentours de peut-être que 4 millions ou 5 millions annuels. Et le salaire de Laurent Blanc, c'est pratiquement pareil. Mmh. Donc aujourd'hui, est-ce que eux, ils ont les moyens de pouvoir se payer un entraîneur comme ça? Et
Merci,
Laurent Blanc,
Yacine.
Il a dit que c'est le meilleur choix aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il joue.
Regarde bien.
Est-ce qu'il a le mental? Est-il disposé à pouvoir redynamiser ce club de Monaco? Moi, je
sans gros moyens.
En tout cas.
Je trouve c'est vraiment Jardim pas. Celui qui connaît très très bien la Ligue 1, c'est Roland Courbis.
Roland Courbis pour Yacine. Et merci à Achille, notre consultant, d'avoir apporté cette magnifique information à tous les aficionados du football et notamment ce championnat de Ligue 1 Conforama qui nous est tant cher. Un petit clin d'œil aussi à Stéphanie Aulki, sans oublier Maé, mais aussi Nassera et Kali qui nous écoutent ce soir. Bye bye et à tout à l'heure.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h en cette veille de week-end et aussi premier jour, première soirée, si je peux me permettre, des vacances de fin d'année. Et oui, pour tous les universitaires, mais aussi les écoliers. Avec moi pour en parler de Bordeaux, parce que c'est le prochain sujet dans cette émission. Alisson Nkunku, toujours Britaï, le coach Tolé nous a rejoint. Et sans oublier Yacine Bouali. Allez, on prend la direction de Bordeaux.
Time Sport, la victoire.
Oui, il fait bon y vivre, Bordeaux. Magnifique ville. Les Bordelais nous écoutent ce soir, notamment avec l'application Beurre FM sur vos téléphones portables. Il y a aussi le site internet où vous pourrez réécouter les replays de vos émissions préférées, notamment Tamsport, beurrefm.net. Voilà, ça c'est pour le site internet de notre radio. Frédéric Languépé lance un nouvel appel au dialogue aux ultras, renforcé dans sa position par l'actionnaire King Street. Le président directeur général des Girondins veut renouer le dialogue avec les ultramarines qui réclament sa tête depuis plus de 2 mois. Ne serait-ce pas le moment de clamer aux supporters, messieurs les ultras, merci de répondre donc à la fameuse invitation. Vous n'avez pas grand-chose à perdre et vous serez certainement mieux entendu. Alisson, tu en penses quoi? Eh oui, à Bordeaux. Pourtant, il fait du bon boulot, cet entraîneur portugais.
Il fait du bon boulot, cet entraîneur portugais. Pourtant, ça chauffe pas mal. Hein. Les Ultramarines sont pas mal remontés contre le dirigeant bordelais, hein, qui ne veulent pas, les deux actionnaires principaux qui ne veulent pas aller dans la même direction. D'un côté, on a qui veulent plus investir sur le projet sportif, et de l'autre, plus sur tout ce qui est un peu marketing, etc., etc. Donc les Ultramarines ne l'entendent pas de cette oreille, hein. Ça s'est vu quand ils ont infiltré la pelouse, je ne me rappelle plus, contre
Nîmes, les supporters.
Nîmes,
hein.
C'est ça, ouais, contre Nîmes,
alors qu'il y avait une grande victoire,
c'est ce soir-là. C'est ça, victoire 6-0, qui est passée inaperçue, hein, d'ailleurs, hein, parce que il y a eu pas mal de heurts. Donc une main tendue, j'ai envie de dire, il est obligé, hein, parce que ça chauffe. Donc il est obligé de tendre cette main. Mais est-ce que c'est du politiquement correct, est-ce que c'est de la communication, pour l'heure je saurais pas dire, mais en tout cas le geste est bien vu de sa part.
Ah oui, Yacine, les Bordelais.
Il faut savoir que les Américains, enfin le fonds de pension américain King Street a pris tout seul les rênes de Bordeaux depuis qu'il a racheté les actions de GSIP là. Donc le nouveau patron de l'homme fort de King Street, Frédéric Longuipé, quand on voit sa déclaration au journal de l'équipe, et il n'est pas rien de nouveau. Il a dit que il connaît pas d'entraîneur qui est satisfait de son mercato. Ça veut dire faut pas attendre grand chose de ma part, c'est à dire je vais plus sortir le chiquier. Donc après, Paulo Sousa, il est à Bordeaux, c'est un club, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont, on va dire, ils jouent les intermittents de spectacle. Mais après, moi je leur politique, il faut que les Américains prennent un club, je connais pas un club qui est sorti de l'auberge, quoi.
Oui, Maurice, on pense quoi? Peut-être un futur mercato assez...
Non, mais...
On parle pas d'Angleterre.
Ah, d'accord.
On parlerait ailleurs. L'Angleterre, c'est anglo-saxon. Ouais. C'est complètement différent.
Non, mais je réagis par rapport à ce que tu disais, Yacine. En fait, tu disais depuis 15 ans. C'est marrant parce qu'on arrive à la fin de la décennie et en fait, on se rend compte qu'il y a 10 ans pile, on avait un Bordeaux qui sortait, imaginez-vous, de sa poule de Ligue des Champions devant la Juve et le Bayern et qui caracolait en tête de la Ligue 1 avec je sais pas combien de points d'avance. Le Bordeaux de Gourcuff. Imaginez-vous, en 10 ans, ce club tombe dans l'anonymat le plus total. Là, on a une déconfiture, pareil, hein. Désolé, c'est je suis sur le thème. Hein. Non, mais vraiment, parce qu'il faut le dire, moi, je suis déprimé par cette Ligue 1 avec toutes ces affaires.
Ouais.
Et là, on a un mec, moi, je peux comprendre aussi l'Ultramarine, c'est-à-dire qu'on a un mec qui est intéressé que par l'aspect business. C'est hyper important, hein. Un club reste quand même une entreprise. Mais derrière, il faut aussi qu'il y ait des résultats, il faut aussi qu'il y ait un projet, il faut qu'en fait, qu'on y voit clair. Et moi, si je suis bordelais, en fait, si je me remémore où là on était 10 ans en arrière, je me dis finalement, avec Taverneau, avec des. Voilà, on faisait des coups, on prenait des gourcuffes, on avait du chamac. Ça roulait. Moi, je préfère ça plutôt que là, on a un super coach, mais on sait pas où on va. Donc, carton.
Mais par contre, le centre de formation des Girondins de Bordeaux, depuis 2-3 ans, ils sont très actifs sur le marché.
Oui, c'est vrai.
Ils sont de faire un excellent boulot. Donc, je pense que leur politique a complètement changé. Ils veulent vraiment produire leurs propres joueurs. Donc, une époque, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs qui sont sortis de Bordeaux. Plutôt, quand il y avait les grandes années de Dempsey, c'était exceptionnel.
Le confrère,
ah oui, quand il y avait Courbis à l'époque. Donc avec
Dugarry, Zarazou quand même.
Ouais.
C'est pas mal.
Pas mal.
C'était avant M6, hein. C'était avec Emilio Ponzani.
Il y avait Zidane à Bordeaux.
Oui, mais
il sort de Cannes.
Dugarry, Lizarazu formé aux Girondins de Bordeaux.
Ils sont du monde. Arrivé quand même à l'âge de 16 ans.
J'étais
formé à
ce moment-là. À ce moment-là, Henri n'est pas formé à Monaco. Alors,
Yacine, quand même.
À ce moment-là, Henri est formé à Clairefontaine.
Oui, je dirais, Henri a été formé à Clairefontaine.
Comme exemple.
Monaco, elle lui a donné peut-être à 17 ans.
Préformation.
À 17 ans, Thierry Henri était déjà en Ligue 1.
Il arrive à quel âge Mbappé à Monaco? Il faudrait avoir tous les joueurs comme ça.
15 ans.
Il arrive à 14 ans.
14 ans et demi.
Il a
12 ans.
Donc il est formé où, à Bondy ou à Monaco?
Il a été formé à Bondy.
Oui, il a préformé à Bondy. Non, mais la formation.
Formé à Bondy.
Ce qui va faire de toi un joueur professionnel, c'est 16 ans, 15, 16 ans quand même.
Les Bordelais, coach Tolet, justement. Bordeaux.
Ah, c'est un autre débat.
Bordeaux avec toi, justement.
Bordeaux, de toute façon, tout a été dit. Sa communication, il n'y a rien de surprenant. Heureusement, parce que ça. C'est vrai que paradoxalement,
tu as
cette équipe qui marchait relativement bien, moins bien depuis deux journées. Avant d'affronter l'OM, tu gagnes 6-0, score de tennis, et pourtant, non, t'as un débordement. Enfin, c'est quand même un fait extrêmement rare, montre qu'il y a un vrai malaise.
Oh, pas si rare avec les clubs français, hein, t'as vu Lyon?
Désolé, ce soir je suis en mode bashing.
Ouais. Les supporters commencent à se bouger. Ouais. C'est une bonne chose en France. Ouais.
À Bordeaux, on n'a pas tout à fait l'habitude de voir ce genre de...
On a l'habitude de rien voir depuis 10 ans, malheureusement.
Ce stade est magnifique, mais je vois trop de tribunes, trop de sièges vides.
Ah ouais, c'est clairsemé.
Ça me fait de la peine.
Il y a trop de projets. Ah ouais. Ouais, on a senti que tu voulais t'y rendre à Bordeaux pour voir un match.
Je pense. Il ne laisse pas rentrer à Bordeaux.
Ah ouais, quand même.
Non,
Yacine,
je pense.
On l'écoute. Je pense
habillé comme ça.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi?
Je pense qu'en France, on devrait revoir aujourd'hui la politique de recrutement, pas au niveau des jeunes, mais au niveau c'est-à-dire les scouts des équipes premières. Je pense qu'il faut.
Yacine, on arrive toujours au scout avec toi.
Mais c'est important.
Ouais.
C'est très important parce qu'aujourd'hui.
En tout cas, il est d'accord avec toi.
Quand on voit soit à Bordeaux, soit à Monaco, soit.
Il y en a beaucoup, Yacine.
Et quand on voit le nom des joueurs, on se pose la question comment ils sont arrivés pour jouer en Ligue 1. Et on mettrait vraiment un grand point d'interrogation.
Et quelques alors, bons joueurs, quand même.
Oui, de bons joueurs, mais
défensivement,
on en oublie parfois, peut-être.
En CFA 2, tu trouves des joueurs qui sont de la même valeur, c'est les meilleurs que les joueurs qui sont aujourd'hui à Bordeaux. C'est la vérité, mon cher ami. C'est la vérité.
Il y a un écart qui.
Je peux te donner des chiffres, je suis d'accord qu'entre aujourd'hui,
joueur de National. Et un joueur de Ligue 1, il y a pas grand chose peut-être au niveau technique. Par contre, après, au niveau mental, ça va un petit peu plus vite. Voilà, il y a la régularité du
très haut niveau. C'est normal, quand tu joues à un certain niveau.
Ah bah oui, mais
tu es obligé d'adapter ton jeu.
Ah bah oui,
tu prends un joueur. Juste un exemple. Je me rappelle plus du nom. C'est un joueur qui est parti d'Île-de-France et jouait en même pas en CFA 2. Il est parti en Angleterre. Il a fait une saison en 5e division. Et là, il vient de signer en Championship. Pour te dire qu'en France, le recrutement, il y a quelque chose.
Non, mais la Championship, ce n'est pas une référence quand même.
Hein?
Non.
La Ligue 2 anglaise, quoi, l'équivalent.
Plus bas. Championship, c'est pas de référence.
Non, mais Championship, on sait très bien.
Dijon, Bordeaux ne tiendrait pas en Championship.
Tu as Dijon qui a recruté un défenseur central l'année dernière qui évoluait en R1 et qui évolue cette année en Ligue 1.
Ça, c'est un bon recrutement.
Mais il y en a pas mal, ça. Il y en a beaucoup, ça. Parce qu'on n'en parle pas. Les clubs de Ligue 1 qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent ou en Ligue 2 vont chercher. Regarde en N1, N2, N3.
Oui,
regarde les matchs. Je regarde beaucoup de matchs. Je peux dire que des fois, je me pose la question, comment des joueurs sont arrivés à signer en Ligue 1? Je me pose la question.
Comment?
J'ai le droit de me poser la question quand même.
Tu as le droit. Tu vois le droit, mais quand même, il y a un niveau.
Je veux pas citer de nom.
Mis à part.
Mais
à Bordeaux, il y a de bons joueurs.
Il y a énormément de joueurs. Je ne sais pas par quel biais ils sont arrivés à devenir professionnels.
Par un agent qui.
Voilà, qui joue l'agent.
Les agents.
Ah, il a bien foutu.
Ils font leur travail.
Tu fais un essai général.
Mais t'as même des joueurs, des voix d'un standing dont on croit extrêmement important. Parce que le mec, il a été vendu dans un gros club. Et ça fait 5-6 ans qu'il est en train de faire des gros clubs, mais sans vraiment jouer. C'est la même chose. Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Et au final, c'est compliqué.
L'exemple de Mariga, qui était à Amiens, et quand ils étaient en national, il n'y a personne qui l'a vu. Ben, bonjour, on le
dit. Et toi, tu l'as vu?
Il y a les gens qui regardent des matchs de national, de CFA, et ils arrivent à voir des joueurs.
Ouais.
Et là, moi, j'étais lors du match de la Ligue des Champions Monaco-Porto. Je ne citerai pas le nom de.
Mais Samuel Eto'o,
je ne vais pas citer le nom de quelques journalistes sur place. Ils savaient même pas, alors qu'ils avaient la feuille de match, ils ne savaient même pas d'où sort Mariga. Alors qu'il était.
Samuel Eto'o.
Alors,
deux saisons avant, il était en France.
On a un peu bifurqué. On était sur Bordeaux.
C'est un autre débat.
Mais le sujet, il est quand même intéressant parce qu'il revient sans cesse. Concernant les scouts en France, et c'est vrai qu'il y a Yannick qui te donne tout à fait raison. Yannick, non. Yacine, non, je suis très sérieux. Les Français, trop de semblants et pour en rien. Yacine, bravo. Voilà. Comment? Moi, je donne trop de semblants. Voilà, pour rien. En fait, je crois qu'il voulait nous dire que, en fait, voilà, ça travaille pas beaucoup. On nous fait trop des, on nous dit que la formation est bien présente, que la formation est au top, et qu'en fait, il y a nul.
Le problème aussi,
il y a nul joueur qui sort.
Il y a 10-15 ans au football.
En gros, je crois qu'il voulait dire ça.
Il y a 10-15 ans au football, le joueur, c'est sur 3-4 saisons qu'on voyait qu'un joueur était bon. Il partait de son club à 23, ouais, 24, 25 sûr. Ans. Maintenant, la différence, maintenant, c'est sur le potentiel. Qu'est-ce qui peut te définir que dans 6-7 ans? Elle est là, la différence.
Et il part très tôt. Avec le Brésil, on est la nation la plus exportatrice.
On l'a rappelé déjà dans l'émission. Voilà. Ouais.
Je vais juste revenir sur un joueur.
Ouais.
Martin. Il y a quelques années, on l'avait présenté comme le nouveau Zidane.
Jonas Martin de Rennes ?
Non, pas Jonas Martin.
Marvin.
Parce qu'il était ami avec quelques joueurs. Il a fait deux matchs dans l'équipe de France, il a marqué le ballon.
Mais il était bon aussi à Sochaux.
Il n'a jamais été bon. Ni à Sochaux, même à Boufferic, il n'a jamais été bon. Il faut qu'on arrête. Quand tu compares quelqu'un à Zidane, c'est que ton cerveau, il y a un problème, mon cher ami.
Mourad Megni, il a été comparé à Zidane.
Mourad Megni, c'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il
n'y
a pas comparaison entre Mourad Megni.
On arrête de s'exciter.
Marvin Martin, c'est très moyen.
Il faut remettre l'église.
Voilà, l'église, la mosquée, la synagogue, tout ce que tu veux. Allez, vas-y.
La mosquée, on pourra mettre plein de choses.
Ouais, allez, vas-y.
Il
n'y
a pas que l'église.
Marvin Martin, la saison où il arrive en équipe de France, 17 passes décisives, il bat le record. À un moment, il ne faut pas non plus raconter.
17 passes décisives, franchement, j'aimerais bien les revoir.
Tu le laisses terminer.
J'aimerais bien les revoir quand le ballon est rebondi sur ton pied, il devient passe décisive.
N'inquiète pas, il va t'envoyer la vidéo.
Il y a une grosse équipe.
Je suis d'accord, Brice.
C'est même pas le niveau national, mais qu'on arrête.
Yacine, tu le laisses finir avant la pause.
Alors. Comparer après à Zidane, c'est pas de sa faute à lui. Je veux dire, si la presse le compare à Zidane, on sait très bien que quand Zidane a pris sa retraite, on en a eu pendant des années où dès qu'il avait un numéro 10,
du papier,
il sortait, ah c'est le nouveau Zidane, ah c'est le nouveau machin.
Ah mais quand la presse française, c'est pas un très bon joueur, c'est pas un bon joueur, c'est un joueur quelconque, c'est un joueur de niveau national. D'ailleurs, même quand on est blessé, quand on revient, on voit qu'il y a du reste.
Il n'y
a pas de reste, mon ami. Ça passe, ça ne joue pas au football.
Parce que mentalement,
ça ne joue pas au football. C'est un niveau très moyen.
Parce que, Yacine,
moi, je ne comprends même pas comment on l'a accepté au centre de formation de Sochaux. Il y a un problème dans ce pays.
Et Gourcuff, il était nul alors. Il a été comparé à Zinedine Zidane aussi. Gourcuff.
Et toi, tu compares Gourcuff à Zinedine Zidane. Mais tout le monde maintenant compare
à
Zinedine Zidane.
Mais il a été comparé,
Même moi, ils ont voulu me comparer tellement ils étaient en galère à Zidane. Même moi. Après, je leur dis non, Yannick Noah peut-être.
On disait le nouveau Zidane parce qu'il y avait de nostalgie. Mais c'est pas de la faute des joueurs. Marvin Martin, à l'époque, il fait une très très bonne saison. Une excellente saison. Il mérite d'aller chez les Bleus. Après, il n'y tient pas.
Merci. C'est Yacine, c'est chaud dans une ambiance verlantante. C'est bien sûr TAM Sport, 19h-20h. Vous restez avec nous, la dernière partie, elle arrive avec l'Olympique Lyonnais, sans oublier aussi le football italien.
TAM Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h. TAM Sport, avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, l'horaire habituel de votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM. On nous écoute, allez, du côté de Bastia, le 90.8, Mantes-la-Jolie, un petit clin d'œil à Mourad et aussi à Nathalie, au 100.5, sans oublier Valenciennes qui nous écoute ce soir. Et oui, le 97.4, et Valenciennes qui joue aussi ce soir.
Il n'y a pas que Valenciennes qui nous écoute, il y a la Creuse et la Corrèze aussi.
Et aussi,
voilà. Même à Troyes,
on nous écoute.
Et même à Troyes, mais bien sûr.
Dans l'Aube.
Et oui, ça fait plaisir, ça, au Côte-Jolie. Il y a du monde aussi.
Du côté de Troyes.
Ah, ils sont oubliés aussi. Le monde entier nous écoute.
Même le junior, c'est Rafik Saifi, mon ami à Troyes.
Rafik Saifi,
Karim Ziani.
Toujours.
Farid Gazi.
Après, on parle de l'Italie. On parlera de l'Italie après, t'inquiète pas. Yacine, on prend le chemin du club rhodanien.
Time Sport.
Eh oui, L'Olympique Lyonnais qui s'agrandit, Jean-Michel Aulas, s'offre le Rain FC. À la fin du mois de novembre, le président lyonnais a annoncé que l'Olympique Lyonnais avait entamé des discussions afin d'acquérir la franchise américaine du Rain FC, membre fondateur de la National Women's Soccer League, la NWSL, aux États-Unis. Ce jeudi, le club où évolue le Ballon d'Or féminin, Megan Rapinoe, a annoncé que le rachat de 3,15 millions d'euros est désormais officiel. Le règne de l'OL va-t-il commencer ? Eh oui, Alison, justement, alors, quelques remarques à faire concernant cela, parce que pour 3,15 millions, quand même, c'est pas assez...
Je peux faire un petit jeu de mots, Bilal ?
Ouais, vas-y.
Le règne va surtout se poursuivre.
Ouais, Lyon. Lyon le fait si bien en Europe.
C'est déjà voilà, un super club.
Outre-Atlantique.
Européen. Mais c'est justement,
il n'y avait pas beaucoup de choses.
C'est là où c'est hyper habile de la part de notre ami Aulas.
Ouais.
Il fait, en fait, dans le foot féminin, ce qu'il ne peut pas faire dans le foot masculin. C'est-à-dire que là, il construit une marque OL qui est hyper balèze. Je ne sais pas si tu as vu à la conférence de presse, il y avait notre ami Tony Parker.
Il est actionnaire.
Ouais. Voilà.
Qui est l'ambassadeur de l'OL à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et donc là, en fait, on voit bien que Jean-Michel Aulas, pour un coût qui est franchement plutôt modeste, 3 millions et quelques, bah finalement, il se construit un truc là pour la...
Et le groupe OL détiendra 89,5% et le restant, ça serait pour Tipeee.
C'est hyper habile, c'est malin. À côté, t'as la marque Rapinoe qui est même au-delà du football. C'est super fort. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, on sait que dans le foot masculin, il ne peut pas le faire. Donc,
ouais.
Il ne peut pas... construire ce groupe à l'international. Donc non, c'est habile.
C'est déjà bien, en tout cas, pour lui.
Et au-delà de ça, ça permet à Jean-Michel Aulas d'asseoir son hégémonie sur le football féminin. Hein, parce qu'on sait que les meilleures joueuses, entre guillemets, de football, de soccer, sont américaines. Que le vivier, que le centre de formation des Américaines est beaucoup plus large, beaucoup plus fourni qu'en France et que n'importe où, d'ailleurs, n'importe quel autre pays de ce monde. Donc ça permet aussi intrinsèquement à Jean-Michel Aulas de pouvoir faire venir directement de très grandes joueuses ou de très grandes joueuses en devenir à l'OL. Donc c'est un coup extrêmement bien fait de sa part et extrêmement intelligent.
C'est parce que les gens en France, on a tout de suite.
C'est bien dit.
Je pense que Jean-Michel Aulas, c'est un visionnaire.
Bien sûr.
Ah oui,
avec Louis Collin. On le rappelle.
Pour le coup, ce qu'il a fait, je
ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui sont capables d'y aller aux États-Unis et de pouvoir s'imposer. Il vient de racheter le meilleur club américain, la meilleure franchise américaine.
Il fait peur, Yacine Mourière, comme s'il avait dit une bêtise.
Non, du tout, quand même pas.
Mais ce qu'elle dit. Notre chère
Alison.
Ouais, Alison est tout à fait, parce que le football féminin les 5 prochaines années il va connaître un autre essor et
on
le football américain il est énorme. Rien que l'université américaine, elle peut fournir, je pense, des centaines et des centaines de joueuses.
Ah, largement. Pour,
c'est incroyable parce que là-bas, le soccer féminin, il est beaucoup plus. C'est vraiment
une mentalité. Et après, ça peut toucher aussi
autre chose.
Parce qu'il y a États-Unis, Canada aussi.
Il est en train de donner une nouvelle dimension au football féminin en France en acquérant la plus grande franchise américaine. Ici, vice-versa, il peut donner l'opportunité à des joueuses françaises pouvoir. C'est-à-dire se montrer aux États-Unis où le football féminin est très très développé.
Après, je ne suis pas sûr par rapport à ça, justement.
Le coach Solaire, on termine avec cela.
À l'avenir, oui, mais si tu veux, il y a une telle différence entre Lyon, le PSG, voire Montpellier et les autres qui sont encore des clubs amateurs que, par contre, là où je vous rejoins clairement, c'est que c'est un visionnaire. Vous avez tout dit avec Loulou Nicolin, c'est eux qui ont eu 10-15 ans d'avance.
Quand Marinette Pichot est partie aux États-Unis, où elle a fini pendant 3 saisons ou 4 saisons, meilleure joueuse et meilleur buteur du championnat de la franchise américaine.
Tu as déjà des joueuses américaines qui ont évolué à l'Olympique Lyonnais, donc elles savent que de l'autre côté, c'est ce qui se fait de mieux en Europe.
Tu peux permettre aussi à des joueuses françaises d'y aller faire peut-être.
Oui, mais on est encore trop loin.
5-6 jours aux États-Unis.
Oui, mais le niveau est encore trop. Oui.
N'oublie pas la marque.
Mais il y a une différence.
Exactement.
Je suis d'accord. Mais c'est un peu l'image du PSG entre guillemets chez hommes. Il y a un niveau trop important encore pour que d'autres joueuses, à part des joueuses qui évoluaient à Lyon, qui évolueraient à Lyon au PSG, puissent partir aux États-Unis.
D'ailleurs,
il y a trop de différence encore.
Je te l'ai. On termine rapidement.
Aulas arrive avant de signer le contrat. Comment il a enlacé Rapinoe. Il là, a on eu, comprend, il s'est dit, j'ai fait une grosse affaire.
Il l'a eu comme chose aussi. Hein.
Bah oui, pour 3 millions, pour 20.
Il l'a eu comme chose, il la connaît.
Je pense que c'est vite amorti. Hein.
Ouais. Bien sûr. Autant le rappeler aussi que le jeune milieu René Eduardo Camavinga, 17 ans, né en Angola, a bien reçu sa nationalité française.
Et ça a été vite pour lui.
Très vite. Encore l'Afrique qui perd un grand joueur.
Là, pour le coup,
encore l'Afrique qui perd un très grand joueur.
En tout cas, bravo pour lui. Félicitations. On passe à la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, ça te fait plaisir, Yacine. Justement, quand Mancini dit que l'Italie n'est plus très loin des meilleures équipes européennes. Aïe, 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 attention aux Italiens après cette victoire en autant de matchs lors des éliminatoires à l'Euro 2020. La sélection italienne est sur le chemin de la rédemption. La fin d'un calvaire pour la nationale. Avec, après avoir manqué, justement, cette fameuse Coupe du Monde 2018 en Russie, est-ce la renaissance italienne qui s'impose peut-être? Le coach?
Ça me fait penser un petit peu à l'équipe de France durant les années 90, lorsqu'on on sortait du titre de champion d'Europe avec Marseille, mais éclaboussé après par l'affaire OMVA. Derrière, avec l'équipe de France, on ne va pas au Mondial. On a eu un des plus grands traumatismes de notre football. Et l'Italie, on a le sentiment aussi que... ça a été très compliqué ces dernières années, malgré peut-être un euro, on les attendait pas, et etc. Mais on sent que depuis les affaires de corruption, de matchs truqués en 2005-2006, que le football italien a eu du mal à revenir. On l'a vu en termes de club avec la Juve, les gros commencent petit à petit à revenir sur le devant de la scène. Et là, donc, on retrouve cette nouvelle fraîcheur italienne. Mancini le dit, il remercie quelque part aussi les joueurs qui tout de suite se sont investis dans la nationale pour permettre à cette grande nation du football mondial de revenir sur le devant de la scène. Alors après, gagner tous ces matchs en poule, c'est très bien. Faut ensuite voir en grande compétition, mais t'as besoin d'avoir l'Italie.
La formation, on est revenu aux fondations et peut-être l'Italie avait mis bouchée double concernant cette formation italienne qui avait été un peu perdue, Yacine. Achille, il l'avait si bien dit dans cette émission avec même Olivier G et je me rappelle même Kamel. L'Italie est peut-être prête. En tout cas, l'Italie est un pays de football. Ça, faut pas l'oublier, le coach Tollet.
C'est un vrai pays de football.
Ah ouais. Ça, je tiens juste à le rappeler. Non, mais je tiens juste à le rappeler. Parce que des fois, il y a des observateurs du football, bon, sur d'autres radios ou d'autres chaînes télé. Non, vraiment. Et on a l'impression que l'Italie, non, l'Italie, c'est le nouveau pays venu en football, quoi. Ouais, bien sûr. Faut respecter. Justement, c'est pour ça.
Nous, ici, à Beurre FM, on
sait. Et on le rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices.
Les Brésiliens s'en savent.
Les Italiens.
On parle historiquement de la troisième plus grande nation de l'histoire du football, en fait.
Ouais.
D'ailleurs, les Brésiliens et les Allemands. Voilà. Juste pour recadrer les choses, parce que s'il y en a qui nous disent.
On remet les choses dans leur contexte.
Exactement. Je casse Coupe du Monde.
Quand même.
Je pense en Europe, c'est le premier pays.
L'Allemagne. Ouais.
L'Allemagne.
Ça dépend. Voilà, c'est l'Allemagne. Il y en a, c'est les Italiens.
C'est les deux.
Ouais, ça dépend.
Coupe du Monde de chaque côté et dans le championnat d'Europe, du côté de l'Allemagne, il y a un.
Ah, ça, c'est mathématique. Si on parle.
Mais plus intéressant le championnat italien.
Non, mais
en termes de classement. Oui,
sans parler des coupes européennes.
Des coupes européennes, c'est autre chose, parce que là, t'auras les.
Incroyable.
Qui peuvent entrer aussi dans la danse. Mais c'est encore un autre sujet.
Alors,
ouais, les Anglais qui ont gagné une Coupe du Monde avec beaucoup
en 1966.
En 66.
Oh, Yacine, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça, Yacine. Non, Yacine.
Je demande pas la
VAR. Non, Yacine.
On va revenir à l'Italie et au projet de Mancini, qui est d'ailleurs par ailleurs un très bon coach. Moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait à City. Après l'Italie, par rapport à l'Euro 2020. On ne peut pas encore les mettre dans la catégorie des favoris. Je pense que c'est un très gros outsider, mais en fait, il peut manquer après le vécu collectif. C'est-à-dire que là, tu as des joueurs, tu as des excellents joueurs, tu as des Verratti, des Agnolo, des
Donnarumma.
Tu as des super joueurs, tu as les grognards aussi derrière. Mais je pense qu'il manquera un peu de vécu collectif après pour être dans les favoris. Après, pour aller au bout, on ne sait pas trop. Hein, de
ouais.
Compétition, ça preuve vérité. Mais voilà, pour reprendre les propos de Mancini, on peut pas encore vraiment les mettre au rang des favoris comme la France ou la Belgique, qui depuis 3-4
mois. Pas, y aura de top
niveau. Mais
c'est
ça, je pense qu'il faut ce vécu.
Alors, allez,
il faut ce vécu, en fait. Parce que dans les moments clés, t'as besoin de ça, en fait.
C'est exactement ça. L'Italie se remet peu à peu de ses blessures, se reconstruit et avec justement le manquement de la Coupe du Monde 2018, ça a permis de leur faire prendre du recul, d'acquérir, de se remettre en question et de remettre les fondamentaux, de se réorganiser. Mais justement, tu parlais de l'Euro, je pense que t'as très bien résumé la chose. L'Euro, ça sera l'outsider. Et c'est cette compétition-là, justement, qui va les préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Ce qui va
au
faire,
Qatar,
justement, leur vécu, le fait de vivre dans un groupe, le fait d'acquérir cette expérience-là, le fait de jouer ensemble pendant une compétition et pendant un certain temps d'affilée, ils vont acquérir cette expérience-là pour justement arriver prêt à la Coupe du Monde au Qatar. Et là, à la Coupe du Monde au Qatar, on pourra s'attendre à une grosse équipe d'Italie.
Comme la France.
Comme la France,
ouais.
Exactement.
C'est ça. Alors,
La France, c'est un cas particulier.
Non.
L'Italie, depuis l'histoire du football, quand ils ont gagné leur grand titre, ils avaient trois clubs mythiques. Il y a la Juventus, le Milan et l'Inter. C'était les meilleures nations,
européens.
Il n'y avait pas un top 3, il y avait un top 10 dans ce championnat italien.
Non, on parle des trois meilleurs clubs, et après les autres.
C'était la NBA à l'époque. Ouais.
Non, mais laisse-le,
c'est pour ça que l'Italie était l'une des meilleures nations du monde.
Ouais.
Donc après, le terme outsider, pas favori pour l'Euro, ça leur convient. Et il faut les attendre. Je pense que c'est eux qui vont gagner l'Euro. Et je parie. C'est de juste une petite bémol. Ils vont jouer l'Euro avec
ouais, l'univers. J'enregistrerai. Et je vais même doubler. Je vais même doubler la mise. C'est notre consultant Kamel Aidkera qui m'a envoyé un petit message et il m'a dit que l'Italie remportera cet Euro 2020. Je ne sais pas. Le coach Tolé.
On peut mettre une pièce sur l'Angleterre.
Le coach Tolé. L'Italie avant de terminer. C'était un bon week-end à tous les auditeurs de Beurre FM.
Ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est je comparais à l'équipe de France des années 90 où on a loupé le mondial 90, on a loupé le mondial 94, on est revenu en 96.
Mais la France remportera l'Euro 2020.
On est revenu en 96 où il a rebâti, on va quand même en demi-finale et derrière on gagne quand même le mondial et de là l'équipe
de pénalty.
On verra bien en tout cas. Merci. Le coach Tolé, merci Alisson, sans oublier Yacine Bouali de m'avoir accompagné, mais aussi Brice Sali, un petit clin d'œil à notre réalisateur vidéo qui n'est autre que Nabil Fatih et notre réalisateur Yanis, un petit clin d'œil aussi à toutes les personnes qui m'accompagnent justement pour cette émission qui est Tam Sport, le rédacteur chef Mamadou Lamine Mané, le coordinateur d'émission Jouba Wichen, Myriam Bensala, coordinatrice et programmatrice, et Farid Rouas, le community manager. Un grand bravo à toutes et à tous et rendez-vous lundi prochain à partir de 19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.